Oui, un documentaire tout à fait exceptionnel par son sujet, hein, qui est la visite de la grotte Chauvet sous le regard de Werner Herzog. Werner Herzog est un cinéaste allemand qui va vers sa 70e année, qui a fait des films tout à fait hors normes. Je peux citer Aguirre et la colère de Dieu, qui avait donc cet acteur fétiche qui était Klaus Kinski, et qui, en dehors de sa partie de long métrage de fiction, fait toute une série de documentaires. Et celui-ci est donc son dernier, qui est exceptionnel parce qu'il a eu l'autorisation de pouvoir pénétrer dans cette grotte, qui est fermée à tout public, qui est ouverte très peu de temps, peut-être un mois ou un mois et demi au printemps, réservé aux archéologues pour la recherche.
Avec une combinaison.
Alors, pas comme notre président qui va à Lascaux sans mettre les petits chaussons et le bonnet. Là, il y a tout un processus pour rentrer, pour ne pas contaminer la grotte. Et nous le voyons. Nous faisons en fait partie de l'expédition. Et c'est ça qui est absolument magique.
Passionnant.
Émerveillant. Non pas parce que l'image est splendide, mais c'est le fait même d'être là, parce qu'il filme avec une toute petite caméra, avec une espèce de dominante noire et blanche. On peut le comprendre en voyant quand arrivent les premiers dessins sur les parois. Donc c'est de l'art pariétal, sur les parois, des dessins dessinés sur les parois rocheuses. Et ces dessins sont la plupart en noir, des gros traits noirs sur un fond plutôt blanc. Cette dominante s'accorde aux images qui sont tournées dans la grotte, qui sont très sous-exposées, parce que, évidemment, pour protéger aussi la grotte, il ne faut pas éclairer fortement. Donc, ce sont des petites lampes que Herzog, en plus, utilise comme un peu les torches de l'époque, avec une lumière mouvante, et joue sur justement l'apparition, la disparition des formes au gré de la lumière. Donc c'est ce regard émerveillé d'Herzog. Tous les films ont une... pas tous les films, mais toutes les versions de films selon le pays où sort le film sont accompagnées d'une voix off dans la langue du pays. Pour nous en France, c'est la voix de Volker Schlondorf qui dit le texte, qui doit être dit par Herzog lui-même dans la version allemande, j'imagine. Qui commente et nous explique en fait l'expédition, comme si on faisait partie de l'équipe de tournage. Donc on part des vignes, la caméra s'élève, on passe au-dessus de la rivière, on arrive devant la falaise, on voit l'entrée de la grotte, on rejoint le groupe d'archéologues qui va pénétrer dans la grotte, on voit le sas, la porte qui est comme un coffre-fort pour ne pas justement laisser l'atmosphère extérieure pénétrer à l'intérieur de la grotte, et nous endossons la lampe frontale, etc. On voit la petite échelle en fer par laquelle tout le monde descend, et les règles sont extrêmement strictes. On ne peut marcher que sur toute une série de petites passerelles en fer qui reprennent en fait le parcours qu'ont emprunté ceux qui ont découvert la grotte.
C'était en quelle année ?
Alors, c'était pas il n'y a pas très longtemps, c'était en 94, par M. Jean-Marie Chauvet, d'où le nom de la grotte Chauvet. Et donc, il est interdit de mettre un pied en dehors de ces petites passerelles, interdit de toucher quoi que ce soit, et le temps est extrêmement limité. Donc, Herzog nous dit tout ça dans le film. Et donc, nous allons découvrir peu à peu et par étapes les dessins. Ce n'est pas une grande symphonie magistrale de gros plans sur
donc
les dessins.
Donc on est dans une relation très intime.
On est dans une relation, on est plongé dans cette expédition et dans une expérience réelle, comme si on y était. Évidemment, le film, les 1h30 du film, on ressort aussi de la grotte pour partager des entretiens avec les archéologues en face à face. Herzog donc pose des questions, toutes les questions qui lui viennent à l'esprit sur l'époque, comment il vivait, etc. Et on rentre dans la grotte au fur et à mesure jusqu'à aller vers la fin du film dans un moment où on est dans une approche en gros plan. Les plus gros plans sur les dessins viennent vers la fin du film et sur une musique qui se déploie sur toute la durée du film, qui reprend des sons, par exemple, de gouttes d'eau, qui, pour certains, peuvent peut-être être un peu omniprésentes. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt assez juste. C'est une musique où il y a des voix, donc des gouttes d'eau, des moments de... Alors, les battements de cœur, une espèce de rythmique qui est un peu plus facile, mais qui est assez déroutante, parce qu'elle ne ressemble ni à une musique symphonique, ni à une musique concrète, et qui a vraiment été conçue pour le film par Ernst Reisch. Alors, difficile à prononcer, Reichsöger, quelque chose comme ça. Peut-être certains qui parlent l'allemand.
Ceux qui ont fait allemand première langue.
Non, je renonce. Je renonce quand je vois. Non, Ernst Reisch.
C'est là qu'il y a un J, c'est ça le problème.
Bon. Oui, ben voilà. Reisiger.
Voilà.
Ernst Reisiger.
Heureusement que vous êtes là, Christophe. En toute situation, n'est-ce pas?
Vous êtes mignon. Bon.
Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc ces dessins extraordinaires. On voit des rhinocéros. On voit des lions. On voit des couples de lions. On voit des chevaux. On voit des mammouths. On voit des cerfs, des bouquetins. C'est une beauté puissante et vertigineuse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il nous montre vers Herzog aussi ce qui est moins spectaculaire, c'est-à-dire le sol, la couverture de calcite qui recouvre le sol et qui recouvre quoi ? Plein d'ossements d'ours, de crânes d'ours, de mandibules, de choses un peu informes. À un moment donné, il y a une des archéologues qui indique au passage une vertèbre d'ours. Et quand la caméra s'approche, on voit une espèce de fleur minérale magnifique, mais à laquelle on n'aurait pas du tout attribué cette origine. Et aussi, ce qui est formidable dans c'est un vrai film d'Herzog, c'est un vrai regard d'un cinéaste, parce qu'il nous montre non seulement la grotte, mais l'émerveillement des archéologues. Et souvent, on a le regard des archéologues sur les peintures, où ils sont en premier plan, et tout au fond, on voit les parois dessinées. Et les archéologues expliquent, désignent, parlent, imaginent. Il y a cette Dominique Baffier, qui est une des archéologues principales, nous commente et nous dit les sons qu'elle entend en voyant les images. Ensuite, il y a des séquences assez drôles où on voit un archéologue habillé avec en peau de renne comme les huit-nuit pour nous rendre compte de comment les hommes pouvaient être habillés
cette grotte, c'était un lieu, c'était un lieu d'habitation.
Est-ce qu'on sait l'usage enfin de ces grottes? On parle de nécropole, on parle de...
Non, parce qu'il n'y a aucun ossement d'homme, il n'y a que des ossements d'ours. Or, les
un
ours,
lieu de culte, les... un lieu sacré en tout
peut-être.
Cas.
Peut-être. Et par exemple, il y a un crâne d'ours qui est posé sur une pierre, comme sur un autel. Il y a des empreintes d'hommes aussi. Alors notamment, il y a une empreinte d'un enfant qui a entre 8 et 10 ans. Et dans le même endroit, il y a des empreintes de loups. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Herzog nous pose bien la question de l'interprétation.
Du petit chaperon rouge.
C'était Mowgli, non ?
Voilà, exactement. Herzog nous dit, on a ces deux empreintes qui sont juxtaposées. Qu'est-ce qu'on imagine ? On peut imaginer que l'enfant a fui devant un loup affamé. On peut imaginer que l'enfant avait déjà domestiqué le loup. Et que c'était son animal de compagnie.
Ou qu'une louve a récupéré un enfant, comme pour Rémus et Rémulus, comme pour Mowgli.
Et aussi, on peut se dire que les deux empreintes ont été déposées à 5000 ans, 10 000 ans de différence.
Oui, bien sûr.
Parce que là, on est dans quelles années
Alors, c'est moins 30 000 ans before present, comme on dit maintenant.
Avant Jésus-Christ.
Oui, avant Jésus-Christ.
Pourquoi before present?
Et c'est la nouvelle norme.
Oui, vous êtes sur Radio Notre-Dame avant Jésus-Christ.
Voilà. Je trouve que c'est plus facile.
On est après Jésus-Christ.
Et par exemple, Lascaux, c'est. Lascaux, c'est moins 18 600-18 800 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est bien avant Lascaux. C'est pour ça que c'est une découverte majeure, parce que c'est vraiment le premier art pariétal en France, bien avant ce qu'on avait découvert auparavant.
Et j'ai une petite question à vous poser.
Stéphane.
D'un point de vue formel, mm-hmm. Le fait d'être dans une salle de cinéma qui est obscure, le fait que le film donc, se situe dans une grotte qui est obscure avec juste l'éclairage qui est porté sur la paroi, est-ce qu'on a cette sensation d'être nous-mêmes finalement dans la grotte ? Parce qu'il y a une continuité entre l'obscurité du lieu filmé et l'obscurité dans laquelle on se trouve nous-mêmes.
Tout
Est-ce
à
qu'on
fait.
Expérimente quelque chose de cette
ah
ordre ?
Ah oui, oui, tout à fait. On est complètement transporté. Et certainement d'autant plus que le film a été tourné en 3D. Hein, maintenant, c'est le grand truc. Et je pense que pour ce film-là, c'est tout à fait adéquat. Parce que les dessins sont faits en fonction du relief. Le bison peut avoir l'impression de courir, de s'avancer vers nous parce qu'il est dessiné dans telle anfractuosité. Et moi, qui ai du mal avec le relief et que ça me rend malade, donc je suis allée voir en 2D. Mais je pense que pour ce film-là, c'est tout à fait adapté. Et par exemple, vers la fin du film aussi, on pénètre dans la partie la plus lointaine, la plus éloignée de la profonde de la grotte. Et là, il y a un impadice une concrétion qui descend comme un petit pic du plafond sur lequel est dessiné un sexe de femme, mais qui est tourné de telle manière qu'on ne le voit pas depuis la passerelle. On voit juste un profil de bison qui a une figure très humanisée, qui est penchée au-dessus de ce sexe. Et il a fallu toute une technologie très avancée pour arriver à faire une photographie de l'autre côté, donc de ce petit pic, pour voir le dessin de l'autre côté. Et on voit en effet que ce sexe de femme est vraiment entre deux jambes, et une des jambes de la femme est la patte du bison qui vient se pencher au-dessus d'elle. Et pour nous montrer ça avec la caméra, Herzog utilise aussi tout un système, enfin il nous le dit, hein, pour arriver à contourner ce relief, pour nous l'offrir comme vraiment cadeau supplémentaire en fin de film.
C'est un film qui a nécessité un lourd investissement technique de par une constitution d'équipe, de matériel.
Non, c'est une toute petite équipe parce que les gens ne peuvent pas rentrer.
En tout cas, on a l'impression de comprendre à ce que vous dites.
Non, parce qu'il y a
c'est la volonté d'être simple, sobre et en même temps assez intime.
Oui, puis de toute façon, on peut pas rentrer à beaucoup de personnes.
Non, mais il aurait pu utiliser un matériel extraordinairement perfectionné, pointu, faire appel, comme vous le disiez. C'est pas une grande messe avec des
Non. Mais c'est totalement émerveillant et merveilleux. Et surtout, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on partage cet émerveillement avec celui des archéologues. On voit dans leur passion, dans leurs yeux, cette espèce d'illumination que l'on peut partager ou pas, mais en tout cas, moi, qui me ravis parce qu'on est face à des grands-enfants passionnés.
La grotte des rêves perdus, ce documentaire de Werner Herzog, 1h30 en ce moment en salle.
Oui, un peu partout.
Il faut y aller.
Il faut absolument y aller.
Merci.